Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Ça y est, nous y voilà. Au moment où vous écoutez cet épisode, le quatrième, ça fait un mois que Passerelle existe. Une bande-annonce et quatre épisodes plus tard, est-ce que c'est trop tôt pour déjà faire un petit bilan de cette expérience? Je ne sais pas. Mais comme point de départ cette semaine, j'ai envie de vous parler d'une chose qui, encore aujourd'hui, est assez difficile pour moi dans ce nouvel exercice du podcast. Cette chose-là, c'est comment parler naturellement. Je me fais peut-être des films dans la tête, autrement dit, je ressens peut-être les choses d'une manière différente de la réalité, et je manque peut-être de recul, mais quand je me réécoute, au moment de monter les épisodes, ma réaction c'est souvent « Urgh, c'est terrible ». C'est vrai que c'est quand même bizarre d'écouter sa propre voix. On n'a pas l'habitude, non? C'est drôle parce que, quand je m'enregistre, j'ai l'impression de parler avec intention, avec des intonations variées, de manière fluide et surtout naturelle. Mais quand je m'écoute, je me trouve très monotone parfois. Que vous ayez déjà fait cet exercice, ou pas, de vous enregistrer en train de parler français, ou n'importe quelle langue étrangère, vous vous reconnaissez peut-être dans ce que je viens de dire. Je crois qu'il y a toujours un décalage entre la manière dont on pense parler et la manière dont on parle réellement. Mais je crois aussi qu'on est souvent très dur, je dirais même trop dur, envers soi-même par rapport à ce genre de choses. Je me présente, je m'appelle Émilie, et dans l'épisode de cette semaine, on va parler de la parole. Le fait de s'exprimer à voix haute. À voix haute, c'est aussi le titre d'un documentaire que j'ai regardé récemment et que j'ai adoré. Il pose une question et je vous encourage à réfléchir à cette question. Quel est votre rapport à la parole? Si vous devez parler devant un groupe de personnes, pour le travail ou pour les études, est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse? Ou au contraire, vous avez confiance en vous dans ce genre d'exercice? Je pourrais vous poser exactement la même question pour les conversations, dans la vie, en général. Je vous invite à vous demander, comment est-ce que vous abordez les conversations en français? Ou à travers vos expériences dans différentes langues étrangères? Pour apporter quelques pistes de réflexion, quelques réponses, je vais tout d'abord vous en dire davantage sur ce fameux documentaire, à voix haute. Et sur les choses que j'ai notées en le regardant. Et dans une deuxième partie, un peu plus courte, j'ai envie de vous parler de ma relation à la parole. Et puis, on terminera sur quelques idées sur comment vous pouvez avoir un rapport plus apaisé avec la prise de parole. Et surtout, quelques idées sur comment vous pouvez mieux comprendre et être mieux compris en conversation. Alors, commençons avec quelques mots sur « à voix haute ». Une petite précision, j'oublie si j'ai déjà expliqué cette expression dans le podcast, mais parler à voix haute, c'est dire les mots suffisamment clairement, distinctement, pour que votre parole soit entendue par les personnes dans l'endroit où vous êtes. On peut aussi lire à voix haute. Inversement, on va parler à voix basse, quand on est dans un endroit calme, comme une bibliothèque, par exemple. Et dans ce cas, seulement les personnes autour de nous peuvent nous entendre. Bref, revenons au documentaire. À voix haute, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants de la Seine-Saint-Denis. Pour situer, la Seine-Saint-Denis est un département qui se trouve en région parisienne, au nord-est de Paris. Et donc, pendant 6 semaines, on suit le parcours de ces étudiants qui se préparent à participer à un concours d'éloquence pour prendre la parole devant un public. C'est un concours annuel, et chaque année, le but est d'élire le meilleur orateur ou la meilleure oratrice parmi les étudiants. En gros, à travers des formations, le concours Eloquentia cherche à donner des outils aux jeunes pour qu'ils s'expriment librement et qu'ils gagnent en confiance avec la prise de parole. Le documentaire débute sur une observation que j'ai trouvée très juste. Qu'est-ce qui fait un bon discours, en fait ? Un bon discours, c'est un discours qui vous emporte. Être emporté par quelque chose, un discours qui vous emporte, c'est un discours qui provoque une émotion forte en vous. Avec ce documentaire, on nous donne les clés pour argumenter et convaincre devant un public. On voit les étudiants prendre confiance en eux. Pour certains, ils doivent apprendre à pousser leurs limites et à se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est prendre une décision. Peut-être risquée, parce qu'on ne sait pas quel va être le résultat, mais on prend quand même ce risque et on y va. Quand on parle de la parole, on pense bien sûr aux mots. Mais le documentaire donne aussi une place très importante aux gestes. Et je crois que c'est là qu'on commence à trouver un début de réponse à une de nos questions. Comment parler plus naturellement ? À mon avis, c'est essentiel d'être attentif aux gestes et vraiment d'associer la parole aux gestes. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui vit la parole, qui habite la parole, qui incarne les idées, les émotions qu'il ou elle veut transmettre à son public. Une autre chose qui m'a marquée, c'est la place accordée à la respiration dans la prise de parole. Mais je reviendrai sur ça un peu plus tard. Tout au long du documentaire, il y a des personnalités qui sortent du lot, qui se distinguent par rapport au groupe. Je pense à deux personnes, Leila et Eddie. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais encore une fois, mon but ici, ce n'est pas de vous raconter l'histoire en détail, mais plutôt de vous donner envie d'aller regarder ce documentaire. Il y a quand même un dernier point dans cette histoire que je voudrais partager pour finir cette première partie. À un moment, on voit le personnage d'Eddie répéter encore et encore son discours. C'est par la répétition que, presque inconsciemment, il apprend son discours par cœur, oui et non. Il s'approprie son discours. Si je vous dis que dans l'apprentissage des langues, la répétition est un exercice très bénéfique, c'est pas forcément pour vous encourager à apprendre des choses par cœur. Je vous invite plutôt à observer avec attention pour intégrer, pour assimiler des tournures de phrases, des intonations. Les transcriptions, c'est aussi très utile pour lier la parole au geste, pour voir les silences, les hésitations. Ce travail d'observation est une étape nécessaire avant de se détacher de l'écrit et prendre vous-même la parole. Si, dans votre discours, vos conversations, vous bloquez, il faut s'interroger sur ce qui ne fonctionne pas. Essayez de reformuler avec vos propres mots. Et, qui sait, d'autres idées, d'autres manières de dire les choses vont venir naturellement. Comme je l'ai dit au tout début, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de ma relation à la parole. Faire ce podcast, c'est un peu un moyen pour moi de pousser mes limites dans ma manière de prendre la parole. Pour faire un retour dans le temps, si je devais lire les commentaires de mes profs sur mes bulletins scolaires, vous savez, le bulletin scolaire, c'est ce document avec vos notes et les observations des profs à la fin de chaque trimestre, au collège ou au lycée par exemple. Bref, je pense qu'ils diraient tous quelque chose comme « Bon élève, mais Émilie devrait participer davantage, prendre plus la parole pendant les cours. » Voilà, parler devant un groupe, c'est quelque chose qui a toujours été un peu difficile pour moi. Ça reste, encore aujourd'hui, un exercice pas facile. Un exercice dans lequel je suis pas complètement à l'aise. Je me reconnais tout à fait dans Leïla. Leïla, je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est une des étudiantes qui participe au concours Eloquentia. Pour résumer, elle explique qu'elle se sent beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. J'ai un rapport très similaire à la parole. À l'écrit, j'aime le fait qu'on puisse prendre son temps, revenir sur ses mots, retravailler un texte, effacer, recommencer. Avec ce podcast, l'étape de l'écriture, c'est certainement ce qui me prend le plus de temps. Mais c'est pas du tout une corvée. C'est pas du tout quelque chose de désagréable pour moi. Bien au contraire. J'aime prendre le temps de trouver les mots justes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'expression « se jeter à l'eau » et du sentiment de risque lié à la prise de parole en public. Quand mes élèves me disent que ça les rend un peu nerveux de parler français, dans les situations de « la vie réelle », entre guillemets, je le comprends, ce sentiment. Et je le partage parfois, souvent, quand j'essaye de parler chinois, par exemple. Dans la parole orale, il y a un truc immédiat. Dans la vie, on va pas vraiment pouvoir revenir en arrière à l'oral, comme on peut le faire à l'écrit. Mais quelque part, c'est facile à dire de mon côté, mais je crois qu'il faut accueillir ce risque, l'accepter. On a souvent des ressources qu'on ne soupçonne pas. Et au final, on s'adapte plus facilement qu'on l'aurait imaginé, face à quelque chose d'imprévu. Je dois dire que mon rapport à la parole a aussi beaucoup évolué grâce à mon métier. Dans la vie, je suis quelqu'un de très posé. Et plus je vieillis, plus ça devient vrai, je crois. Être posé, ça veut dire être calme. C'est quelque chose que je garde avec moi, dans les échanges avec mes étudiants. Quand je prends la parole, j'évite de parler pour ne rien dire. J'essaye, en tout cas. Ça aussi, c'est une grande préoccupation que j'ai avec ce podcast, d'essayer d'apporter quelque chose d'intéressant. Je dirais qu'avec chaque épisode, j'espère au moins attirer votre curiosité sur un sujet et inspirer un échange bienveillant. Je voudrais finir cette deuxième partie sur un dernier point. Dans ma relation à la parole, la respiration et les pauses occupent une place essentielle, une place très importante à mes yeux. Alors je sais, on dit souvent que les Français parlent très vite, trop vite. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, écouter quelqu'un qui parle à toute vitesse, quelqu'un qui parle à 100 à l'heure, c'est vite fatigant ou désagréable. Dans la prise de parole, dans l'échange, je crois qu'il y a une place à donner aux pauses, au silence. Il faut pas hésiter, et c'est pas un problème, de prendre quelques secondes, de se donner le temps de réfléchir avant de répondre à une question. Ces pauses, ces silences, font partie intégrante de la conversation. Enfin, pour finir avec notre troisième et dernière partie de cet épisode sur la parole, on va se concentrer sur la conversation ici. Je dirais que les pauses, les silences dont je vous parlais à l'instant, quand on est prêt à les accepter, quand on est à l'aise avec les moments de silence, je veux dire le vrai français parlé, entre guillemets. Il est plein de pauses, d'hésitations. On commence une phrase et on la finit pas. On passe à une autre idée. Bref, il n'y a pas de discours parfait dans la conversation. Et quand on prend conscience de ça, ça permet de soulager un peu la pression. Ou en tout cas, ça devrait permettre de soulager un peu la pression et d'aborder la conversation d'une manière un peu plus apaisée. Mais parfois, certainement, dans la conversation, vous allez rencontrer des difficultés à comprendre ou à être compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Aujourd'hui, je vais simplement vous parler d'une chose, l'intonation. L'intonation, on en a besoin pour apporter des précisions sur le message qu'on souhaite faire passer, ou alors décrypter ce que l'autre veut dire. Dans une conversation avec plusieurs personnes, soyez attentifs à ça. Je vous donne un exemple très basique, mais est-ce que l'intonation monte quand il s'agit d'une question? Au contraire, l'intonation descend quand on affirme quelque chose. L'intonation, ça vous donne des informations utiles sur le message, sur les émotions de la personne que vous écoutez. Pour moi, quand j'enregistre ce podcast, je dois en quelque sorte me pousser à mettre plus d'énergie dans ma voix pour que l'épisode soit intéressant à écouter pour vous et que ce soit le plus authentique possible. Je dois aussi faire attention à parler suffisamment lentement, mais pas trop, à parler suffisamment clairement aussi. Et mine de rien, autrement dit, c'est quelque chose dont je me rends compte maintenant, tout ça, et parler toute seule devant mon micro, ben ça nécessite de la pratique. Pour vous, afin d'adopter l'intonation appropriée dans une langue étrangère, il faut apprendre à l'observer. C'est un exercice qui peut se faire par soi-même. C'est là qu'il faut profiter de toutes les ressources audio et vidéo à votre disposition pour faire cet exercice d'observation. Et c'est encore mieux si vous avez accès aux transcriptions, bien sûr. Cet exercice consiste à répéter ce que vous entendez et à imiter l'intonation. Faites cet exercice quand vous avez un moment où vous êtes seul, et puis amusez-vous avec cet exercice. Plus vous allez le répéter, plus vous serez à l'aise. Voilà, je crois sincèrement qu'il faut apprendre à écouter pour bien parler. Et pour aller plus loin avec la prononciation, c'est quelque chose qui s'observe aussi, la prononciation. Il y a presque une gymnastique du visage à pratiquer pour travailler sur votre prononciation. Ça reste un super exercice à faire, de temps en temps. D'abord pour s'habituer à de nouveaux sons, et puis ensuite, s'approprier des intonations, des manières de parler plus naturelles. C'est le moment de passer à la conclusion de cet épisode. Si vous avez l'occasion ou le temps de regarder le documentaire dont j'ai parlé aujourd'hui, je vous le recommande vraiment. C'est un film rempli d'émotions, d'espoir, qui m'a fait réfléchir sur la force de la parole, sur le mouvement en lien avec la parole aussi. Je vous en dis pas trop, mais il y a un des protagonistes de ce documentaire qui marche beaucoup en parlant. C'est un sujet totalement différent, mais ça m'a beaucoup questionnée sur mon rapport à la marche. Marcher, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est souvent un moment où les idées viennent à mon esprit. Et marcher, je trouve que ça m'aide à y voir plus clair dans certaines situations. Dernière information importante, ce documentaire est disponible en entier et gratuitement sur YouTube. Vous trouverez le lien vers cette vidéo dans les notes de ce podcast. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre relation à la parole. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Et puis, j'entends souvent que mettre une note sur Apple Podcast, 5 étoiles, pourquoi pas, ou écrire un commentaire encourageant si vous avez aimé l'épisode, tout ça, ça aide aussi. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !